Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Sylvain Gaudreau du Parti québécois critique la surenchère actuelle entre les partis politiques, à savoir lequel allait promettre les cibles de réduction d'émissions de gaz à effet de serre les plus élevées. On questionne aussi l'ancien ministre des Transports de Pauline Marois sur la possible carboneutralité du troisième lien dont l'actuel ministre caquiste François Bonnardel a parlé mardi. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
La rencontre Nadeau-Robitaille.
Et bonjour Rémi Nadeau.
Salut Antoine.
Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Danielle McCann, là, l'ancienne ministre de la Santé, est-ce qu'elle a menti?
Bien, je trouve que c'est pas concluant. Les partis d'opposition, bien je dis les partis d'opposition, les libéraux et les péquistes ont accusé Danielle McCann d'avoir menti sous serment à l'enquête de la coroner sur les CHSLD, les décès en CHSLD lors de la première vague de pandémie.
Ce que j'appelle l'hécatombe.
Oui, et honnêtement, avec ce qui s'est passé hier, tu sais, le fait que la protectrice du citoyen a dit que les CHSLD n'avaient pas été avisés de la menace là, avant le mois de mars. Je m'attendais honnêtement à voir une Danielle McCann plus ébranlée que ça. Et je l'ai trouvée quand même assez solide ce matin lorsqu'elle est allée répondre.
Commencer par dire quand même qu'elle était bouleversée par ce qui se disait sur elle dans l'espace public.
Oui.
Mais elle avait quand même des éléments pour répondre aux accusations.
Et j'ai trouvé qu'elle avait de l'aplomb dans les circonstances où, comme je te disais, là, avec le gouvernement Legault a passé un mauvais quart d'heure hier à la période de questions, on en a parlé, tout ça. Ça revenait comme sur ses épaules, le fait qu'elle était comme contredite, dans le fond. Sa version était contredite par la protectrice du citoyen. Mais voici donc, elle nous montre aujourd'hui, avant la période de questions, une lettre qui a été envoyée au coordonnateur de sécurité civile au sein des établissements de santé. Et là, c'est sûr que tu sais, c'est écrit un peu en langage de fonctionnaire. Puis, tu sais, on peut dire qu'il n'y a pas le mot CHSLD dans la lettre. C'est vrai.
C'est ça. Il n'est pas là.
Mais il n'y a pas le mot non plus hôpital. Il n'y a pas le mot.
C'est comme ça qu'elle s'est défendue, effectivement.
Oui.
En disant les établissements. Donc, ça voulait dire tous les établissements.
C'est ça. Et dans la lettre, quand même, effectivement, qui a été envoyée le 28 janvier. Bon, d'abord, Mme McCann dit que le 22 janvier, là, il y a eu une rencontre. Les PDG des six CCUS ont été enjoints à se préparer. Et le 28 janvier, une lettre est envoyée au coordonnateur de sécurité civile pour leur demander d'être prêts dans leur établissement. Et là, le mot établissement, c'est leur établissement au pluriel. Et on va écouter donc déjà Danielle McCann qui a parlé donc de cette procédure-là qui est quand même plutôt rarissime.
C'est une mesure d'urgence. On ne prend pas ça à la légère et on ne fait pas ça souvent dans le réseau. Alors, par cette action, nous avons donc demandé à chaque CCCIUS de mettre sur pied leur centre de coordination en sécurité civile et de mettre leur plan à jour. Il faut se rappeler que les CIUS et les CIS sont nés de la fusion d'établissements, tels que les hôpitaux, les centres jeunesse, les CLSC, mais aussi les CHSLD. Quand on parle, et je cite, dans la lettre du déploiement des mécanismes de sécurité civile dans vos établissements, c'est de tous les établissements dont on parle.
Alors voilà, effectivement, c'est écrit donc voici les attentes ministérielles relativement au rôle important que vous avez à exercer comme coordonnateur de sécurité civile au sein des établissements, de vos établissements respectifs au pluriel. Et là, il y a vraiment plusieurs éléments. Coordonner la mise en place de mesures et actions requises pour votre établissement en réponse aux besoins. On demande d'effectuer un suivi rigoureux, de veiller à mobiliser ou à recourir aux ressources nécessaires pour la conduite de l'opération, s'assurer que les interventions, tout secteur confondu, s'inscrivent dans un ordre de priorité, etc., etc.
Comme tu dis, c'est du langage de fonctionnaire.
Oui, mais ah oui, et un élément important, veillez à ce que les mécanismes de garde de sécurité civile 24/7 de votre établissement soient pleinement fonctionnels afin de garantir une capacité de réaction en tout temps. Donc, c'est quand même, on voit qu'on ne peut pas dire que ils se font pas demander d'être prêts et de préparer le terrain et préparer.
Ouais.
Bon. Alors, tout ça pour dire que je comprends que ce que je décode, c'est que la protectrice du citoyen, elle le prend de l'angle des CHSLD et visiblement, c'est comme si ça s'était pas vraiment rendu à eux avant le mois de mars, mais le ministère, en fait, la ministre de l'époque, Mme McCann, elle,
ce que François Legault a dit,
oui,
qu'avant le mois de mars, on n'avait pas d'indication claire.
Oui, exactement.
Ce qui peut apparaître contradictoire un peu avec ce que Mme McCann dit.
C'est ça, mais elle quand même a dit, garde, on a envoyé ça, là, donc il devait se préparer. Alors, elle ne rejette pas non plus complètement la responsabilité sur les autres. Elle dit, j'ai une responsabilité, la responsabilité, c'est la ministre. Mais bon, elle a cette lettre-là et elle dit qu'après ça, bien, c'est une responsabilité partagée avec les gestionnaires, c'est une collaboration, etc. Et elle a dit, là, sur le plan humain, je suis tellement triste là, en parlant des événements qui se sont déroulés. Et elle a dit en anglais, je vais devoir vivre avec ça pour le reste de ma vie.
C'est vrai.
Moi, honnêtement, j'ai trouvé que dans les circonstances, là, elle a... je trouve qu'elle a diminué là, les risques que l'opposition ait des munitions encore énormément dans les prochains jours. Je pense qu'elle a comme, dans les circonstances, bien fait.
C'est l'heure maintenant de l'analyse sportive d'une autre période de questions qui a été pas mal sportive. Hier, Rémi, tu as décrété que c'était la plus difficile période de questions, la pire depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir. Est-ce que ça a été mieux aujourd'hui, selon toi?
Oui, je trouve qu'ils s'en sont mieux tirés, même si c'est normal que les partis d'opposition soient revenus sur les suites là, du rapport de la protectrice du citoyen, les contradictions apparentes, etc. Mais M. Legault a brandi à un moment donné, c'est drôle, hier, tout le monde disait qu'on avait détruit des documents, personne ne nous en parle aujourd'hui. Il y avait raison là-dessus. Mais la responsabilité, je trouve, revient un peu à la sous-ministre de la ministre des Aînés, Mme Rose Bush.
Ben oui.
Parce que ce qu'elle a dit, c'est que plus on regarde ce qu'elle a dit mot à mot lors de l'enquête de la coroner, ça laissait place à interprétation et c'était pas clair.
Elle a parlé de documents écrasés. Or, quand on écrase un document, tu sais comme moi, il disparaît. C'est ça que l'opposition dit.
Bon, alors que là...
est-ce que c'était juste une mise à jour? De quoi elle voulait parler exactement? Oui. On aimerait lui reparler à elle.
Et ça, c'est sans compter qu'elle avait dit aussi, ça se faisait surtout verbalement, là, la façon dont on faisait nos rapports après les visites dans les RPA. Bon, alors je pense que...
Madame Rose Bush s'est peut-être mis un pied dans la bouche.
Oui, elle n'a pas aidé le gouvernement qui a été pris à patauger après ça dans son marécage, je dirais. Mais toujours est-il que M. Legault avait dit hier, c'est faux, on n'a pas détruit de documents, les documents existent et ils seront rendus disponibles. Bon, alors, donc, à ce sujet-là, effectivement, il semblait avoir mis le bouchon là, aujourd'hui. Et sinon, j'ai trouvé que aussi il a ajusté son ton parce que M. Legault, hier, était exaspéré, il était fort. Il est en colère quand il a renvoyé Gabriel Nadeau-Dubois en disant « Vous êtes un pelleteux de nuages ». Là, ça n'avait aucun rapport. Aujourd'hui, il a cherché un peu à moduler davantage son ton.
Et tout en acceptant sa part de responsabilité puis en rappelant qu'il avait pris une part de responsabilité, tout en la délimitant assez clairement.
Oui, en effet. Mais... puis, tu sais, il a dit à l'endroit de M. Nadeau-Dubois, je m'excuse si je l'ai offensé en le traitant de pelleteux de nuages. Il a dit, je suis pas ici pour insulter ou je veux insulter personne, mais en même temps, je trouve donc, et ce sera donc l'élément suivant, la tentative de définition politique du jour, c'est que M. Legault, c'est pas un hasard, là. Hier, il disait que les solidaires étaient pas concrets. Et ça m'a rappelé qu'à une précédente campagne électorale, dans le temps que c'était Françoise David, il disait ça. Il disait, vous avez des belles paroles, mais soyons concrets. Il ramenait souvent les solidaires là-dessus. Et visiblement, il a l'intention de les marquer comme tels.
Définir.
Oui, les définir. Il est revenu sur le fait que durant le week-end, Québec solidaire s'est doté d'une cible extrêmement ambitieuse de réduction de GES, mais sans dire exactement par quels moyens on y arriverait.
Ils ne savent pas eux-mêmes.
Alors là, donc,
Ruba Gazal l'a dit, une autre de Québec solidaire, lundi, on va venir avec un plan, mais ça s'en vient.
Oui, exactement. Alors, M. Legault, donc, tape là-dessus en disant... vous n'êtes pas concret. On va entendre un extrait. On voit vraiment, je pense, qu'il y a l'intention d'utiliser ces termes-là à répétition contre QS.
Un chef parlementaire de Québec solidaire vient de dire « J'ai déjà répondu. » Est-ce que quelqu'un ici qui a entendu une réponse concrète? Je lui demande qu'il me donne un exemple de pouvoir qui manque à Mme Castonguay. Il y a des réponses, là, qui sont pas des réponses. Il y a rien à proposer. Il y a rien de concret à dire. J'aimerais même lui donner la chance de poser une autre question, s'il veut, mais qu'il me dise concrètement quelque chose, qu'il arrête de brasser des mots. Et si on...
Moi, j'ai trouvé que Gabriel Nadeau-Dubois était mal pris dans cet échange-là parce qu'il a répondu ce qu'on veut, au fond, c'est une enquête sur l'ensemble de la gestion de la pandémie. Puis autre chose, c'est qu'elle soit publique. Or, la commissaire Castonguay a dit qu'elle pourrait rendre ça public puis qu'elle pourrait étudier n'importe quelle partie de la gestion de la pandémie, la performance du réseau, si je reprends ces termes.
Oui, puis M. Legault a demandé quel pouvoir de plus que vous voudriez qu'elle ait, et puis effectivement, il n'y a pas eu d'éléments du côté de Nadeau-Dubois de ce côté-là.
La trouvaille du jour maintenant, quelle est-elle, Rémi?
Ça m'a fait penser à la publicité. Si ça existait, on le saurait. Ah non, c'est tout ça?
Oui, c'est ça, exactement. Renault Dépôt.
Oui, parce que plusieurs se sont... Moi, le premier, là, sur le coup, quand j'ai entendu... parce que c'est dans une lettre, François Bonnardel écrire que la construction du tunnel du troisième lien...
Tu veux nous parler du troisième lien?
Oui.
J'aime ça quand tu parles du troisième lien.
Serait carboneutre.
Oui.
Puis là, on a dit, ben voyons, là... Il pousse un peu trop loin. D'ailleurs, récemment, moi, j'ai eu l'occasion d'avoir une entrevue avec mon collègue Marc-André Gagnon, avec Jonathan Julien, François Bonnardel. Puis quand j'ai fait une chronique après, je me moquais un peu du fait qu'il essayait quasiment de faire passer le projet comme carboneur. Mais là...
T'en faisais une blague!
Mais là, c'est... Puis bon, Dominique Anglade aussi a dit « Je pensais que c'était une blague. » Mais c'est pas une blague, parce que on avait oublié, mais le projet de Turcot, l'échangeur Turcot à Montréal, la construction était carboneutre. Et on l'avait comme oublié. Donc, on dit que depuis 2019, effectivement, il y a une obligation. On va écouter un extrait là-dessus?
Oui, c'est ça. C'est Geneviève Lajoie qui
a parlé au ministre Bonnardel.
Juste à l'entrée du Conseil des ministres, dehors, c'est pas long.
Ils sont là.
Ils ont été plantés.
Même chose pour le pont. Il y a la Violette qui va être carboneur.
Il y en a combien pour Turcot?
J'ai pas les chiffres exacts, mais le projet de Turcot qui a coûté près de 4 milliards est carboneur, donc...
On les a, les chiffres. Donc, c'est 9 000 arbres et 61 000 arbustes.
Il y a une forêt Turcot.
Il y a une forêt Turcot? Ça parle aux arbres. C'est ça. Alors, écoute, il me semble qu'on tombe des nues, là.
Mais oui.
Et donc, le ministère des Transports nous rappelle que même les compagnies qui fournissent le béton qui doit être utilisé là, dans la construction doivent aussi compenser pour la production de béton comme tel. Et le gouvernement, lui, doit compenser pour la construction comme tel avec le béton.
Non seulement, c'était pas une blague, mais...
Ça se fait déjà.
Puis le pont La Violette aussi, dans le même entretien, il parle du pont La Violette.
Les sceptiques seront confondus.
Mais oui, mais combien d'arbres pour le troisième lien, on ne sait pas encore. OK, ça va en prendre en
Monaco. Je sais pas, on pourrait appeler ça la forêt Robitaille.
La forêt Nadeau-Robitaille. Merci beaucoup, Rémi Nadeau.
À demain.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Ou votre emploi du soir? Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille, Là-haut sur la colline.
Québec solidaire a annoncé en fin de semaine que sa cible de réduction d'émissions de GES, si jamais il prenait le pouvoir, serait d'au moins 55 % par rapport au niveau de 1990 d'ici 2030, en se rapprochant le plus possible de la cible de 65 %. On en parle avec un adversaire de Québec solidaire, Sylvain Gaudreau, qui est député de Jonquière du Parti québécois. Bonjour.
Oui, bonjour Antoine.
55 %, 65 % au PQ, est-ce que vous faites mieux que ça?
Ben moi, je trouve que deux choses. D'abord, ça ressemble à une vente aux enchères. Qui dit mieux qui va miser le plus haut? Écoutez, on souhaite tous là avoir 65 % de moins là sur la base de 1990 pour 2030. Mais il faut l'atteindre. C'est surtout ça le problème. La deuxième chose, c'est que c'est un désaveu envers Gabriel Nadeau-Dubois parce que lui, comme chef parlementaire et son caucus, proposait 45 % de moins sur la base de 1990. Et rendu sur le plancher de son congrès, ben les membres de QS lui ont infligé une rebuffade, une gifle, en disant « non, il faut que ce soit 65 %». Finalement, ils ont tiré une ligne à 55 %. Mais juste ce processus-là démontre à quel point ils sont pas sérieux puis ils sont pas prêts. Mm-hmm. Parce qu'on peut pas...
Mais je veux dire, tous les politiciens ont déjà reçu des gifles de leurs militants. Vous avez même pas été élu comme chef. Je veux pas être méchant, là, mais...
oui, je comprends. Je dis pas le contraire.
Okay.
Et je dis que cet événement-là est une gifle.
Okay.
Parce qu'il n'avait pas préparé visiblement, là, sa proposition auprès des membres de QS. Là. Mais moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'il arrive comme ça publiquement dans un congrès en disant 45, ah non, ça va être 65, ah non, tiens, on va couper la poire en deux, ce sera 55, idéalement 65.
Ouais.
Écoutez, 2030, là, c'est dans 8 ans. On est quasiment en 2022. Là.
C'est ça.
Alors, c'est dans 8 ans.
Vous les trouvez désinvoltes, au fond? Avec le chiffre de réduction des gaz à effet, des émissions de gaz à effet de serre.
Irresponsable, je dirais, parce que c'est pas accompagné de mesures. Alors moi, je suis favorable à revoir les cibles de gaz à effet de serre, mais il faut que chaque révision soit accompagnée d'un calcul pour voir comment on va atteindre cette cible, comment on va réduire les CO2, le méthane, etc. Et là, ben ils n'ont pas ça. Donc, à un moment donné, là, on peut bien vouloir monter les cibles, mais il faut être capable de les atteindre. Parce que moi, ce que je reproche également à QS ou à des comportements comme ça où on augmente sans cesse les cibles sans avoir les moyens qui vont avec, c'est qu'on entretient le désespoir ou le découragement ou le cynisme, parce que la population dit « Ah, ben de toute façon, on les atteint pas, les cibles. Hein? » les dernières cibles, c'était ça. T'sais, la cible de 2020 qui était de moins 20 %, on a fait moins 6 %. Alors, il faut donner des signes d'espoir à la population sur la question des changements climatiques et que les engagements qu'on prend, on est capable de les réaliser.
Ruben Gazal disait lundi qu'en 2018, ils avaient une cible, ils avaient présenté un plan de transition chiffré. Et là, ils vont travailler, maintenant qu'ils ont la cible, sur le plan de transition qu'ils vont présenter lors de la campagne de 2022. Est-ce que ça, c'est pas une bonne manière, fixer un objectif et ensuite trouver la manière de s'y rendre?
Ben, en tout cas, j'ai hâte de voir, là, parce que leur cible à 65 %, c'est très élevé. Il nous reste que quelques mois avant le déclenchement de la campagne. Moi, je me serais attendu au moins que déjà à leur congrès, ils soient capables de nous donner des pistes de ces moyens pour atteindre la cible, et on n'a pas eu ça.
Puis vous, au Parti québécois, la cible, est-ce qu'elle est fixée? Est-ce que la cible désirable?
Ben, nous aussi, on va avoir notre congrès la semaine prochaine, ben, en fait, en fin de semaine et l'autre semaine, là, on l'étend sur deux semaines. Alors, on va avoir l'occasion de réfléchir et de faire des propositions sur ces questions-là. Comme je vous dis, on est ouvert à une augmentation des cibles et aussi dans le souci de la juste part de la contribution du Québec. Mais je ne ferai pas la même chose que je reproche à QS. On va arriver avec des solutions pour le jour où on va établir une cible, on va arriver avec les moyens pour l'atteindre. Alors, c'est ça l'appel et c'est ça le message qu'il faut livrer. Quand on promet quelque chose, ben, les babines suivent les bottines, hein, ou l'inverse. Là. Alors, il faut absolument qu'on ait les moyens qui vont avec les cibles et nos ambitions. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Déjà, on est bien engagé parce que la première chose qu'on doit adopter, là, c'est un tableau de bord ou une loi sur le respect des obligations climatiques. Moi, j'en ai déjà déposé une, le projet de loi 194 qui est déposé à l'Assemblée nationale. Et j'ai également proposé de faire adopter un budget carbone qui nous permet de nous assurer d'atteindre nos cibles. Le comité consultatif de scientifiques qui est indépendant du gouvernement qui est d'accord avec cette idée d'un budget carbone. Alors, on va se donner les moyens pour s'assurer qu'on va atteindre les cibles et on va, après ça, se donner les trucs ou les politiques publiques pour y arriver. Alors, c'est là-dessus qu'on travaille, mais déjà, on est beaucoup plus engagé que Québec solidaire sur la vérification de ces moyens-là.
Vous êtes d'accord, au fond, avec François Legault qui dit que Québec solidaire est incapable d'une proposition concrète, juste du pelletage de nuages. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette attaque-là en chambre hier et aujourd'hui?
Ben, je veux dire, je veux pas me mettre à la défense de M. Legault parce que je trouvais que ça n'avait pas de rapport avec la question qui était posée, là, qui était concernant la gestion de la pandémie, la gestion des CHSLD, etc. Donc, je veux pas commencer là à embarquer là-dessus. Moi, ce que je vous dis...
Mais il parlait des GES. Il dit c'est sur les GES. Vous avez fait ça sur les...
Oui, ouais, mais je veux dire, la question de M. Nadeau-Dubois n'était pas là-dessus. Là, on voyait bien que M. Legault cherche une manière de passer ce message-là. Moi, je veux pas embarquer là-dedans. Ce que je veux faire, c'est dire que quand on parle de changement climatique, faut être sérieux. Quand on parle de changement climatique, faut donner des moyens, des exemples pour entretenir l'espoir de la population qu'on va atteindre nos objectifs. Et présentement, c'est pas ça qu'on a. Mais du côté de M. Legault, ben, il est pas plus crédible, hein, parce que moi, je suis allé à la COP, là, et tous les pays occidentaux, le Canada, les États-Unis, les pays européens, ont augmenté leurs cibles, mais pas M. Legault. Puis M. Legault nous dit, mieux que ça, on va faire un troisième lien, tu sais. Là, aujourd'hui, ils nous disent on va planter des arbres pour compenser le troisième lien. Mm-hmm. Il y a toujours bien des lunettes, là. Fait que lui, de l'autre côté du spectre de QS, ben, il est pas plus responsable mais en matière de lutte contre les changements.
Je sais ce que vos adversaires vous diraient à ce moment-là. Vous direz, vous, votre cimenterie dans Gaspésie, est-ce qu'elle était... Ouais, mais c'est vrai. Est-ce qu'elle était carboneutre?
Arrêtez avec ça, là. Je veux dire, la cimenterie, deux éléments. D'abord, la décision a été prise avant l'accord de Paris de 2015, qui a été un changement fondamental dans la gestion des politiques publiques en matière de changement climatique. Alors, 2015 marque une rupture claire à cet égard. Et deuxième élément, vous savez très bien que nous avions entamé des négociations et des ententes avec la cimenterie pour qu'elle reconvertisse ses chaudières, ses technologies pour utiliser de la biomasse, ce que le gouvernement libéral a laissé tomber par la suite. Alors là, je veux dire, on peut bien nous reprocher ça pendant 1000 ans, là, mais ça reste cette réalité. Oui. Moi, de toute façon, là, je n'ai pas un regard vers le passé, j'ai un regard sur le présent et sur le futur.
Il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont un regard sur le futur puis qui font de l'éco-anxiété. Qu'est-ce que vous leur dites quand vous leur parlez, mettons, lors d'un porte-à-porte ou dans des activités publiques? Parce que ça a l'air difficile, effectivement, d'atteindre les cibles. Vous l'avez dit, là, on n'atteint pas les cibles. Mmh. Est-ce qu'on est condamné à un avenir où il y a des changements climatiques tellement perturbants qu'on pourrait avoir une répétition du type de situation comme celle que la Colombie-Britannique vit actuellement?
Bien, tout à fait. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut augmenter les investissements en adaptation au changement climatique. Parce qu'on sait déjà là, que même si on atteint nos cibles, les effets se font déjà sentir. Alors moi, je dis aux gens qui sont éco-anxieux, que moi aussi, je suis éco-anxieux, mais que comme élu, j'aime mieux être éco-lucide. Alors, c'est pour ça que mon éco-lucidité fait en sorte que j'agis de façon responsable et pragmatique, comme le titre de mon essai,
oui.
Et que je veux arriver avec des propositions.
En vente dans toutes les bonnes librairies.
Oui, c'est ça, dans une toute bonne librairie près de chez vous. Ça fait un excellent cadeau de Noël, Antoine.
Oui, c'est ça. Mais là, est-ce que c'est une bonne... Donc, vous dites que quand on est pragmatique, éco-lucide, on peut justement calmer notre éco-anxiété.
Ben oui, je pense que c'est comme dans n'importe quelle situation, que ce soit sur le plan personnel, quand on a un problème de santé ou un problème économique, c'est quand on se met en action qu'on est capable de surpasser l'anxiété ou l'inquiétude que ça nous cause. Alors, c'est la même chose en matière climatique. Quand on passe à l'action, quand on se met à bouger pour changer les choses, ben c'est différent. Alors, moi, c'est ça. En politique, j'ai choisi de passer à l'action. J'ai fait adopter, c'est-à-dire à l'unanimité, plusieurs motions en matière d'environnement à l'Assemblée nationale. J'ai déposé un projet de loi sur la transition juste qui a été appuyé par la FTQ, le syndicat avec le plus de membres au Québec. C'est des actions tout à fait concrètes. J'ai amené des amendements dans les projets de loi, par exemple, pour un meilleur traitement des sols contaminés. C'est des actions hyper concrètes. Fait que moi, ça vient calmer mon éco-anxiété quand je me mets en action.
Mm-hmm. Le troisième lien, maintenant, le ministre dit qu'il peut être carboneutre comme tous les grands projets doivent l'être selon les dernières lois qui ont été adoptées. Pensez-vous que ça peut être possible d'avoir un tunnel de 8 km carboneutre?
Non.
Vous qui avez été ministre des Transports, là.
Non, c'est impossible. C'est impossible. Je veux dire... Il y a une limite à l'éco-blanchiment là, quand même. Là, je veux dire, on peut rendre carboneutre un déplacement en avion, des transports sur quelques distances que ce soit, sur un certain nombre de constructions. Mais là, un tunnel de 10 milliards de dollars qui va venir augmenter l'étalement urbain et qui va en plus utiliser des tonnes de béton. Donc, non, là, ça, là, pour moi, c'est de l'éco-blanchiment ou ce qu'on appelle le greenwashing. Là. Pour moi, ça relève de ce niveau.
Allez-vous être candidat aux prochaines élections? Je dois vous la poser à chaque fois qu'on se parle, Sylvain. Ouais.
Vous savez, quand j'étais jeune, il y avait une série là, pour les enfants qui s'appelait « Un bon exemple de ».
Ah bon?
Alors, vous seriez un bon exemple de persévérance. Alors, Antoine Robitaille racontait aux enfants, parce que vous persévérez dans vos questions. Je vous l'ai déjà dit, les premiers qui sont informés de mes intentions dans le courant de l'année 2022, comme je l'ai toujours fait par le passé à mes autres élections, c'est d'abord et avant tout les citoyens et les citoyennes de Jonquière. Mais je peux vous dire que je suis très heureux dans le travail que je fais et dans la représentation des gens de Jonquière. Et c'est à eux et à elles que je vais faire part de mes intentions dans l'année 2022.
Allez-vous prêter main forte à Pierre Nantel dans Marie-Victorin? Parce que Pierre Nantel s'y présente comme... en tout cas, il est candidat à l'investiture.
Oui, comme je l'ai fait à toutes les élections partielles depuis que je suis député, je vais aller donner des coups de main. Je me souviens dans Jean Talon, on avait été également dans Richelieu avec Sylvain Rochon. J'avais été dans Bonaventure, à chaque fois dans Chicoutimi, évidemment, quand Stéphane Bédard a quitté. J'ai donné des coups de main dans toutes les élections partielles et je vais le faire avec grand plaisir dans ma victoire.
Bien, ben merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain Gaudreau.
Merci et puis à la prochaine.
Au plaisir, salut. Et c'est ainsi que se termine Là-haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.